Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média, au menu Média et Culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, musique avec Gala, elle revient. Et gastronomie avec Laurent Mariotte, il était jamais parti. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu. Ce sera aux alentours de 10h20. Bertrand Chamerois pour son écran de veille, puis Eva Rock pour le zapping du lendemain. Et avant cela, dans quelques instants, le journal des médias d'Antoine Genton et les audiences de Louise Bernard, avec une audience très attendue, le 13h de TF1 d'hier, qui n'a duré qu'une minute, le temps qu'Anne-Sophie Lacaro annonce qu'un problème technique rendait impossible la diffusion des reportages. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et pour évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur Europe 1.fr, il n'y a pas de bug. Notre infomédia va feuilleter la nouvelle formule des Échos Week-end, l'une des belles réussites de la presse papier. Nous serons avec quelqu'un qu'on connaît bien ici à Europe 1, c'est le journaliste économique Nicolas Barré, qui est également le directeur de la rédaction des Échos. Et puis nos invités, le mentaliste star Fabien Olicard et le producteur Benoît Thévenet, il lance autour de Michel Simès Antidote, une nouvelle émission qui voit le côté ludique de la médecine, il y en a un. On oublie trop souvent que la médecine est faite pour aller mieux, pas pour s'angoisser. Pas eux en tout cas, ils ne l'oublient pas. Et c'est un peu la philosophie d'Antidote. Enfin, la comédienne et ex-Miss France Sonia Roland pour la saison 2 de Tropique Criminel, série policière sous le soleil de Martinique qui redémarre ce soir après le succès de la première saison. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
J'ai hâte de connaître les chiffres. Bonjour Antoine Genton.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et c'est Marie-Sophie Lacaro. Hein, et pas
vous avez, j'ai dit Anne-Sophie, ouais, c'était Anne-Sophie Lapique. C'est vrai, ouais. On confond tout le temps, on agrège, mea culpa. Maxima, au sommaire de votre journal des médias, Antoine.
Une enquête préliminaire, une panne inédite, donc celle de TF1, on va en parler dans quelques instants. Et puis une méthode étonnante, vous l'entendrez, dans quelques instants, ça se passe aux États-Unis.
Mais d'abord, les audiences avec vous, Louise, qu'ont regardé les Français hier soir et hier dans la journée d'ailleurs.
Alors, comme la semaine dernière, TF1 qui est en tête avec Session, Section de recherche, 2 épisodes, légèrement en baisse, 4 400 000 téléspectateurs, 20,6% de part d'audience. Ensuite, c'est M6, Insaisissable 2, c'était le premier volet, était diffusé la semaine dernière. Et ben, c'est le même score, les téléspectateurs ont voulu voir la suite, 3 millions de téléspectateurs, 14,3% de part d'audience. Ensuite, France 3, avec un film, une comédie, Adopte un veuf, qui avait bien marché au cinéma, avec plus d'1 million d'entrées. Et là, c'est 2 140 000 téléspectateurs qui sont venus regarder ce film, 9,2% de part d'audience.
Culture Média.
Alors à la une, Antoine, Patrick Poivre d'Arvor visé par une enquête.
Une enquête préliminaire pour viol, elle a été ouverte cette semaine par le parquet de Nanterre. L'information a été donnée hier soir par Le Parisien sur son site. Elle est reprise, cette information, en première page du journal ce matin. La femme qui accuse PPDA, Florence Porcel, une écrivaine de 37 ans, à la une donc du quotidien. C'est elle qui a porté plainte contre l'ancien présentateur vedette de TF1 et ex-journaliste de CNews. Il est parti il y a quelques semaines. Elle l'accuse de l'avoir violée en 2004, notamment dans le bureau qu'il occupait alors à TF1. Puis en 2009, année pendant laquelle elle aurait envisagé de porter plainte avant de renoncer. De peur de ne pas être crue, elle a donc fini par le faire, encouragée, écrit Le Parisien, par le contexte actuel de libération de la parole.
Et ces accusations ne surprennent pas grand monde dans le monde des médias.
Oui, chez TF1 notamment, c'est ce qu'affirme encore Le Parisien. C'est dans un article publié ce matin sur son site. Un reporter qui a travaillé une dizaine d'années avec Patrick Poivre d'Arvor confie qu'à chaque fois qu'un scandale MeToo éclate, il ne peut s'empêcher de se demander mais pourquoi rien ne sort sur PPDA. Patrick Poivre d'Arvor a qualifié les accusations portées contre lui de fantaisistes et son avocat a indiqué qu'il allait déposer plainte pour dénonciation calomnieuse.
On change de sujet avec du jamais vu dans l'histoire du JT.
Oui, du JT de TF1, c'est inédit, impossible de diffuser le journal de 13h hier, 2 jours après avoir fêté son 40e anniversaire, une panne de réseau, selon la chaîne, quelques minutes seulement avant que le journal ne commence. Malgré tout, sa présentatrice a pris l'antenne, quelques secondes seulement, pour expliquer ce qui était en train de se passer. Marie-Sophie Lacaro, donc visiblement troublée, on ne serait à moins.
Bonjour et bienvenue dans ce 13h, mais nous n'allons pas passer beaucoup de temps ensemble. Aujourd'hui, c'est totalement inédit. Nous n'allons pas pouvoir vous proposer votre journal de 13h. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser un seul reportage. Nous avons ici un énorme problème technique, alors croyez-le bien. Nous en sommes évidemment désolés, nous vous prions de nous en excuser. Nous allons devoir en rester là, je le redis, c'est absolument inédit. Par correction, je tenais à prendre l'antenne pour vous dire cela et puis pour vous dire aussi que si ce problème venait à se rétablir, eh bien, nous reviendrions à l'antenne évidemment. Nous vous proposerions votre journal de la mi-journée.
Et c'est ce qui s'est passé. Le journal a pu commencer avec près de 40 minutes de retard. Le journal raccourci n'a duré qu'une vingtaine de minutes. 40 minutes de retard, donc 40 minutes pendant lesquelles TF1 a diffusé des bandes annonces, des publicités et un numéro du magazine Reportage. La chaîne d'information du groupe, LCI, a elle aussi été affectée par cette panne qui n'aurait rien à voir avec une cyberattaque selon TF1. Impossible là de diffuser le moindre reportage pendant quelques minutes. Qu'ont fait les spectateurs, les téléspectateurs habituels de TF1? Eh bien, on va vous donner les chiffres dans quelques instants. Julien Bugier, le présentateur du JT de France 2, lui, avait déjà sa petite idée. C'était à la fin de son journal hier.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bienvenue à nos nouveaux téléspectateurs, nombreux paraît-il aujourd'hui.
Et quelques mots très mal perçus à TF1. Julien Bugier a d'ailleurs présenté des excuses sur Twitter. Mais quelques mots ont visiblement été mal compris. C'était de l'humour maladroit. Quand on se trompe, il faut le reconnaître. Mes excuses à nos amis du JT de TF1, a écrit Julien sur son compte. Alors, les audiences, on en a parlé. Les voici, alors, Louise.
Oui, on les a. Bah, l'effet est immédiat. D'habitude, pour vous resituer un peu les choses, TF1, le JT de 13h, Marie-Sophie Lacaro fait en moyenne 5 600 000 téléspectateurs, 42% de part d'audience. Julien Bugier, c'est 3 millions. Là, hier, c'était 5 380 000 sur France 2. C'est un record,
c'est
évidemment.
En fait.
Exactement. Ouais. Et c'est un carton pour Julien Bugier, 41% de part d'audience. Sur TF1, il y avait quand même 2 millions de personnes qui sont restées, 14,9% de part d'audience. Et ça remonte après quand le petit JT à 13h37.
Le JT de 20 minutes.
C'est ça, le JT de 20 minutes est arrivé, dont parlait Antoine.
Merci beaucoup, Louise. Une nouvelle chroniqueuse, tout à fait autre chose, dans Balance ton poste.
Isabelle Balkany, elle commencera dans deux semaines. Cyril Hanouna a profité de sa présence hier soir sur le plateau de Touche pas à mon poste pour l'annoncer. Isabelle Balkany qui pourrait alors porter un bracelet électronique dans Balance ton poste, car sa peine de prison ferme, 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale, a été aménagée. Elle devra donc porter ce bracelet et ne pourra sortir que quelques heures par jour de sa propriété de Giverny.
Le focus programme du jour, Antoine, c'est un documentaire consacré à Charles Trenet sur France 3.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie.
Il y a de la joie, l'une de ses chansons les plus célèbres. Cela fait 20 ans aujourd'hui que Charles Trenet est mort. Alors France 3 lui rend hommage avec un portrait tout en archives, colorisé qui plus est, des photos, des films d'époque avec des interviews de Trenet lui-même. Et ce qui saute aux yeux, c'est la joie communicative de l'artiste. Mais derrière cette euphorie se cache en réalité une faille que le documentaire explique très bien. Charles Trenet a été abandonné par sa mère lorsqu'il avait 6 ans seulement. Un immense traumatisme. Philippe Colli, le réalisateur.
Et il a porté ça toute sa vie. Je ne mérite pas d'être aimé, d'où le fait qu'il est toujours souriant sur les photos. Sinon, on pense qu'il va être rejeté. Il faut qu'il soit souriant. Et sur scène, il recrée, et dans ses chansons, Chanteur de la joie, il recrée le paradis qu'il a perdu. Et il fait monter le public au paradis. Il a été abandonné, on lui a enlevé son paradis, et ben voilà. Et maintenant, les autres ne veulent plus qu'il parte quand il chante. Il s'est aperçu petit à petit qu'il méritait vraiment d'être aimé. Son œuvre a touché les gens, et les gens lui ont dit « on a besoin de toi ».
Philippe Colli, réalisateur du documentaire diffusé ce soir à 21h05 sur France 3. Charles Trenet, l'enchanteur. On en reparlera tout à l'heure à 10h05 avec le zapping du lendemain des Baroques.
Une histoire étonnante qui fait écho à un débat récent en France.
Débat autour d'un article controversé de la proposition de loi Sécurité Globale. L'article 24, on en a beaucoup parlé ici, celui qui prévoit des sanctions en cas de diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. Eh bien, aux États-Unis, des policiers ont trouvé une astuce pour ne pas être filmés puis épinglés sur les réseaux sociaux, Louise. Leur idée est simple, ils diffusent de la musique lorsqu'ils sont filmés.
Oui, mais alors de la musique sous copyright, c'est-à-dire soumise aux droits d'auteur. Pourquoi ? Ben faites le test. Si vous publiez une vidéo sur YouTube, Facebook ou Instagram et qu'il y a de la musique, même en fond sonore, les plateformes ont le droit de supprimer votre vidéo ou interrompre une diffusion en direct. Et si jamais les algorithmes ne détectent pas automatiquement la musique, n'importe qui peut en demander la suppression. La vidéo ne vous appartient pas, la musique.
Et donc, certains policiers se servent de cette protection des droits musicaux pour ne pas apparaître sur les réseaux sociaux.
Exactement.
C'est bien ça.
Ouais, c'est ça. En fait, bon, c'est encore anecdotique à ce stade. C'est le site d'information Vice aux États-Unis qui raconte comment un activiste qui est connu pour filmer régulièrement la police s'en est rendu compte. Un jour, il s'est retrouvé face à un policier devenu soudainement mélomane. Il se rendait dans un commissariat pour contester une amende. À l'accueil, il se met à filmer son échange avec le policier, le diffuse en direct sur les réseaux sociaux. Le policier lui demande combien de personnes regardent le direct. Puis il sort son téléphone pour diffuser cette chanson. Santeria du groupe Sublime. L'activiste s'étonne, mais se souvient alors que deux semaines plus tôt, c'est un autre policier qui, face à sa caméra, avait cette fois dégainé un morceau des Beatles, Yesterday pour être précise. L'expérience se renouvelle aussi quelques jours plus tard, toujours avec les Beatles, et à chaque fois, l'activiste a des vidéos pour le prouver. Alors, aucun des policiers n'a revendiqué son geste comme étant une manière de dissuader les citoyens de les filmer. Ce n'est pas non plus une consigne officielle donnée par les supérieurs. C'est toutefois une méthode de censure qui commence à être connue pendant le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Certaines vidéos de manifestations avaient été signalées puis supprimées, avec pour seul prétexte les musiques présentes en fond sonore.
Et puis des bons chiffres pour terminer ce journal, Antoine.
Oui, de bons chiffres pour le hors-série du nouveau Détective. 30 000 exemplaires en un mois pour ce numéro consacré à l'affaire Grégory. C'est 5 fois plus que d'habitude. Et ce numéro, on en avait parlé ici dans l'émission il y a un mois environ avec l'un des journalistes du magazine, Michel Marie.
Merci beaucoup Antoine Genton, merci beaucoup Louise Bernard. À lundi, bon week-end pour un nouveau journal des médias. À suivre notre info média du jour, c'est la nouvelle formule du magazine Les Échos Week-end sur laquelle on va se pencher. Plus de rubriques, concentration sur les questions environnementales, de nouvelles plumes. On en parle avec Nicolas Barré, c'est le directeur des rédactions des Échos et évidemment éditorialiste politique sur Europe 1. À tout de suite.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture Média. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Ce qui marque d'abord, c'est sa une simple, épurée, avec une seule photo en 16/9, un format très inhabituel pour une couverture de magazine papier. Les Échos Week-end qui ont une identité visuelle très forte, mais pas seulement. Identité éditoriale aussi, économie, société et art de vivre, souvent traitée dans de longs reportages, voire de longues enquêtes, dans ce journal qui est le supplément de l'édition du vendredi des Échos. Cette offre évolue un peu plus de 5 ans après son lancement avec l'hebdomadaire, une nouvelle version qui sort aujourd'hui. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des rédactions des Échos. Les auditeurs d'Europe vous connaissent bien puisque vous êtes à l'antenne chaque matin vers 7h15 pour votre éclairage éco comme économique. Avant de parler des changements, des évolutions, d'abord quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas les Échos Week-end. Comment définiriez-vous ce magazine ?
Ben, Philippe, vous l'avez un peu dit, c'est d'abord cette maquette qui est très élégante, très originale. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire depuis 5 ans avec ce magazine, c'est-à-dire un magazine qui soit original dans le choix des sujets, qui prolonge évidemment l'offre des Échos, c'est-à-dire que le lecteur des Échos n'est pas perdu en lisant les Échos Week-end, puisqu'il y a toute une partie qui est consacrée à ce qu'on appelle les business stories, donc où on développe des sujets sur le monde économique, sur le monde des affaires, mais sur un mode évidemment de longues enquêtes, de longs récits. Et puis bien sûr, tout ça est élargi à la culture, au lifestyle, à la mode. Et ça, c'est très important. Et puis également aux sorties. Et c'est aussi un des changements dans cette nouvelle formule. C'est qu'au début du journal, au début du magazine, nous mettons vraiment l'accent sur les sorties du week-end avec un prisme.
Parce que c'est ironique de se pencher sur les sorties au moment où on a moins le droit de sortir qu'auparavant.
Et bien justement, il y a quand même des sorties. Et puis, notre prisme n'est pas du tout parisien. On a essayé de faire quelque chose qui couvre toute la France. Et ça, c'est aussi une originalité, je pense.
Alors, je dois dire, je monte la couverture des Échos Week-end. C'est un magazine économique, mais pas seulement. Il y a le portrait de cette femme à la tête de Dior, Maria Grazia Chiuri. Il y a une grande enquête sur le télétravail, mais sinon il y a un grand sujet mode, un sujet climat et des sujets culture, donc c'est pas uniquement, même pas du tout, le CAC 40 et les cours de la bourse et des tableaux Excel. Qu'est-ce qui change dans ce changement ? Qu'y a-t-il de nouveau dans cette nouvelle version des Échos Week-end ?
Alors ce qu'il y a de nouveau, c'est ce magazine depuis 5 ans, il marche très très bien, donc on n'a pas voulu bouleverser, faire vraiment une formule radicalement différente. Et donc, nos lecteurs ne seront pas perdus. On prolonge ce qu'on faisait. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ce que je disais sur toute la partie sortie du week-end. Ça, c'est important. Il y a quelques nouvelles rubriques, notamment, par exemple, Dominique Seux qui fait une chronique économique, qui fera une chronique économique toutes les semaines. Vous avez Bénine Dola qui est notre chroniqueuse mode, d'ailleurs, qui signe le papier qui est en cover sur Maria Grazia Chiuri, qui est un papier et une interview très originale parce que c'est une femme, vous savez, qui est arrivée il y a 5 ans, c'est pour ça qu'on l'a choisie aussi, parce que notre magazine a 5 ans, qui est arrivée il y a 5 ans chez Dior Et ça suscitait énormément de questions, parce que c'est une femme très très militante, très féministe, très engagée. Et c'est aussi ce qu'on a voulu faire dans ce magazine. C'est aussi un des éléments qui change, c'est-à-dire qu'on veut aussi montrer cette dimension qui aujourd'hui est présente partout, d'engagement, d'engagement pour la planète, d'engagement sur la diversité, sur ces sujets-là. Et donc, à travers tout le magazine, on va essayer comme ça de développer ces thèmes qui sont aujourd'hui au cœur des préoccupations de la société.
Vous parlez de Béline Dola qui arrive de GQ, il y a Gauthier Borsarello dans vos nouvelles plumes, également Laurent Guèze.
Gauthier qui fait une superbe chronique à chaque fois en prenant un vêtement et qui le décortique. Alors il y a un petit peu des échos là-dedans, hein, parce qu'il va nous raconter les matières utilisées, l'histoire d'un vêtement, comment ça genèse, etc. Donc, ça reste... Il y a à la fois quelque chose de ludique et de sérieux. Alors, les échos au quotidien, c'est sérieux. Là, on ajoute une dimension plus ludique, plus...
Et vous lancez en plus deux newsletters. Il y a déjà beaucoup à lire et vous lancez en plus deux newsletters,
oui,
Nicolas Barré.
Les newsletters, c'est un support magnifique pour développer l'audience. On le voit également pour le quotidien. On a une trentaine de newsletters, hein, donc qui sont à chaque fois...
Ah oui, c'est ciblé, ils
c'est pointu. Ciblé, spécialisé, mais oui, mais ça contribue à générer des abonnements. C'est assez crucial pour l'ensemble de la presse, d'ailleurs, hein, de développer les newsletters, et c'est vraiment un vecteur de croissance. Et pour les Éco Weekends, bon, c'est un magazine qui est aujourd'hui, là, on montre l'édition papier, mais il y a effectivement un prolongement numérique et qui est important aujourd'hui. Beaucoup de nos lecteurs nous lisent sur le numérique.
Alors, dans le magazine cette semaine, il y a un long portrait, on l'a dit, de celle qui dirige la mode femme chez Dior. On va y revenir. Des articles sur les sujets plus surprenants, étonnants. Un reportage sur la plus grande collection de magazines au monde, 150 000 numéros, c'est complètement dingue de garder ça, surtout à l'heure où tout est numérisé. Un autre sur la manière dont la ville de Phoenix dans l'Arizona essaie de se refroidir, elle qui souffre de plus en plus de la chaleur. Encore un reportage sur une entreprise discrète mais très puissante dans le monde du parfum, dont j'ignorais même l'existence, je dois le reconnaître. Le point commun de tous ces papiers, si tant est qu'il y en ait un.
Le point commun, c'est le récit. Vous prenez le papier sur Phoenix en Arizona, c'est un merveilleux récit qui raconte effectivement comment on arrive à survivre, et ça préfigure peut-être ce qui va nous arriver dans d'autres villes ailleurs sur la planète. Mais c'est à chaque fois, ce qu'on essaye de faire, c'est un récit qui prend du temps, bien écrit aussi. C'est un autre point commun, c'est qu'on essaye de soigner l'écriture.
Je souris parce que je pense à tous les autres magazines qui viennent d'apprendre par votre bouche qu'ils étaient mal écrits.
Non, pas du tout. Non, j'ai beaucoup de respect pour tous les autres magazines. Mais on essaye de capitaliser sur le talent des plumes qu'on a aux Échos. Et puis également, ce qui caractérise le magazine depuis le début, hein, depuis ses origines, c'est aussi quelque chose qui caractérise également le quotidien, mais c'est l'ouverture à l'international. On a un réseau très important de correspondants à l'étranger.
Et combien
qui contribuent. On a une douzaine de bureaux permanents, plus des pigistes, mais je parle de... Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Et d'ailleurs, on a été souvent repéré par des grandes stars à l'international qui ont choisi le magazine pour s'exprimer. Je pense à Mary Barra, qui est la patronne de GM, ou à Rita Stings de Netflix, qui nous ont identifiés et qui ont parlé à nos journalistes. Et on prépare là, d'ailleurs, dans les prochains numéros, quelques surprises à ce niveau-là.
GM General Motors ?
Oui.
On continue à en parler avec NB. C'est Nicolas Barré, c'est le directeur des rédactions des Échos dans Culture Média. Tout de suite.
Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Nicolas Barré, le directeur des rédactions des Échos, puisqu'on parle des Échos Weekends, c'est un supplément qui existe depuis 5 ans et qui se renouvelle un peu sans complètement désorienter le lecteur.
Voilà.
Avec aussi des efforts côté maquette, on va en parler. Le magazine compte 108 pages, on a bien compté cette semaine, sans compter les publicités pour les marques de vêtements. Il y en a au moins 32 pages consacrées à la mode, dont la une avec la directrice artistique de Dior, Maria Grazia Chiuri. 32 pages, soit près d'un tiers du journal. Ce sera
sera comme ça chaque semaine ou c'est un hasard ?
Non, ce ne sera pas comme ça chaque semaine et ça n'est pas un hasard. Non, on a régulièrement des numéros mode où on met un focus particulier sur la mode, mais ça n'est pas du tout le cas toutes les semaines, non, bien sûr.
En plus de la mode, il y a plusieurs pages consacrées à l'art de vivre, gastronomie, culture. Est-ce que c'est justement là votre ambition de faire des éco-weekends, un magazine qu'on appelle désormais « Lifestyle » ?
C'est pas seulement lifestyle, c'est-à-dire que effectivement il y a ces sujets-là sont abordés dans le magazine, mais on tient aussi à maintenir ce fil avec le quotidien, avec notre univers, nos lecteurs du quotidien, ils lisent énormément le week-end aussi, ils lisent ce magazine. On a fait des études qui le montrent, qui montrent qu'ils sont très attachés au magazine parce qu'ils y trouvent aussi le prolongement de ce qu'ils voient dans l'actualité économique, dans le quotidien, avec des enquêtes business vraiment approfondies. Donc c'est pas uniquement du lifestyle, mais c'est important, bien sûr, c'est crucial dans le magazine. C'est un des piliers du magazine.
Question que je n'ai pas encore posée, il est vendu à part, il est vendu avec le numéro du vendredi. Comment est-il vendu ? Combien coûte-t-il ?
Il est vendu avec le numéro du vendredi, donc on a un numéro qui est un peu plus cher le vendredi, mais il n'est pas vendu à part. C'est ce qui fait que, comme d'ailleurs d'autres magazines
comme l'Équipe Magazine, par exemple,
qui sont vendus avec le quotidien, donc ça assure évidemment une diffusion importante, hein, mais c'est pas un magazine stand-alone, si je puis dire.
Je ne connaissais pas ce terme, merci beaucoup pour le thème stand-alone. Ça passe de combien à combien ? Le quotidien seul coûte combien ? Et le quotidien plus le magazine coûte combien ?
Du coup, c'est 5 euros le week-end, au lieu de 3.
Vous dites qu'il est inenvisageable pour un grand journal de ne pas avoir son propre magazine de fin de semaine. Pourquoi inenvisageable ?
Parce que c'est vraiment un prolongement de notre offre. Tous les quotidiens aujourd'hui dans le monde ont des magazines de fin de semaine, pratiquement.
En France, Le Parisien, Le Monde, Le Figaro,
voilà, exactement. Donc,
L'Équipe.
Donc quand on est dans un univers de concurrence comme celui-ci, ça semble effectivement inenvisageable de ne pas avoir également cette offre. Et puis, comme vous le savez, les Échos, nous sommes publiés 5 jours par semaine, donc on n'a pas d'édition le samedi. Et c'est aussi important pour nous d'être présents avec cette offre enrichie le week-end.
Dans le dossier de presse de cette nouvelle version des Échos Week-end, il est fait référence aux annonceurs et voici ce qui est écrit. Les annonceurs ont fait des Échos Week-end un écrin d'expression ultra qualitatif pour leur marque. Fin de citation. Deux questions. La première sur l'utilisation du verbe faire. Comment des annonceurs peuvent-ils faire un journal ?
Ils ne font pas un journal. Mais
c'est ce qui est écrit.
Oui, mais ils ne font pas un journal. Un journal, c'est... C'est un métier d'offre. Il y a une grosse erreur. Moi, je pense un peu comme chez Apple ou comme ailleurs. La presse, c'est vraiment un métier d'offre. Raisonner.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que les gens vous demandent un téléphone sans touche. Il faut faire le téléphone sans touche et tout le monde en veut, mais personne n'aurait prédit que c'était ce qu'il désirait.
Voilà, vous savez ce que disait Steve Jobs. Ne faites jamais d'études marketing. Il faut suivre votre envie. Donc, nous, on a suivi notre envie en faisant ce magazine. C'est, je pense, la meilleure manière d'arriver à ensuite séduire des annonceurs plutôt que de faire une étude marketing avant pour savoir ce qu'ils voudraient dans le magazine.
Mais est-ce qu'un journal, quand même, est pensé pour les annonceurs ? Dans quelle mesure est-il pensé pour les annonceurs ? Parce que ça ne peut pas non plus disparaître de votre réflexion.
Tout simplement dans la mesure où ça fait partie de l'équilibre économique. C'est important pour un titre comme le nôtre d'avoir des recettes publicitaires. Donc ça, c'est crucial. C'est une partie de notre chiffre d'affaires. Ce n'est pas la majorité, mais c'est une partie très importante. Donc effectivement, on doit penser en fonction des annonceurs, mais l'offre elle-même, elle part des désirs de la rédaction, et en fait c'est comme ça qu'on fait un bon journal. C'est avec des journalistes qui ont vraiment envie, qui enquêtent, qui ont des bonnes idées de sujets, qui trouvent des choses originales à dire, et ensuite les annonceurs viennent, et c'est ça qui les séduit, je pense. C'est justement de se retrouver dans un univers de qualité. Ce sera toujours notre but aux Échos, de monter en gamme autant que possible.
Dans quelle mesure un magazine papier a-t-il encore de l'avenir ? Parce qu'évidemment, je sais que vous croyez au papier, mais vous voyez, ça peut aller jusqu'où, tenir jusqu'à quand ?
Je suis incapable de dire jusqu'à quand ça pourra tenir. Il y a eu beaucoup de prévisions comme ça qui ont été faites au fil des années, et à chaque fois elles ont été démenties. On continue à avoir une demande pour le papier. On a chez nos abonnés, en gros, les deux tiers de nos abonnés nous lisent sur le numérique. Mais vous avez quand même une part importante de gens qui continuent à réclamer le papier.
Là, vous parlez des échos, vous parlez des échos week-end.
Les échos week-end.
Parce que c'est pas la même chose que de lire en cours de bourse sur le numérique ou alors de feuilleter un papier très bien imprimé avec une très très belle iconographie, comme par exemple sur l'artiste Fabrice Hibert.
Tout à fait. Alors, le papier est plus important pour les échos week-end, mais enfin, on a quand même des gens qui nous lisent sur le numérique aussi sur le week-end. Donc, je pense que l'offre papier va continuer encore pendant pas mal d'années. Combien, je suis incapable de vous dire.
Personne ne le sait. Le papier, justement, l'un des axes de cette nouvelle version, c'est la responsabilité. Responsabilité environnementale, notamment. Et alors, les éco-weekends accompagnera, dites-vous, la quête d'un monde durable. C'est dans le dossier de presse. Or, quand on regarde la composition de papier utilisé, on remarque qu'il n'est pas recyclé. 0%.
On essaye de s'approvisionner en papier issu de forêts durables. Hein. Ouais. C'est l'objectif, c'est même d'arriver à 100% de papier issu de forêts durables. Donc ça, c'est une première réponse. Après,
et vous ne trouvez pas
si, on trouve.
Mais c'est beaucoup plus cher.
On est en train de conclure, on a conclu des accords avec des fournisseurs en Europe, et notamment un en France, pour s'approvisionner en papier issu de forêts durables. Donc oui, c'est ce qu'on essaye de faire.
Quelques mots sur la maison mère, les échos, votre diffusion est en hausse, plus 3% l'an dernier par rapport à 2019, 135 000 exemplaires par jour en moyenne. C'est là votre principale source de croissance ?
Le numérique tire notre croissance. Ça, c'est, on a connu en 2020 une année exceptionnelle, avec une très forte hausse des abonnements numériques.
Combien ?
Nos abonnements, c'est des hausses à deux chiffres. Hein, donc,
ça peut être 11 ou 99, une hausse à deux chiffres. Donc c'est plutôt vers 11 ou plutôt vers 99.
Pendant la période du confinement, du premier confinement, par exemple, on a multiplié par 4 le recrutement de nos abonnés, nos recrutements mensuels. Sur l'année, l'ensemble de l'année, on n'a évidemment pas multiplié par 4, mais on a dépassé les 100 000 abonnés au total. On est un titre donc en croissance au total avec une diffusion payée positive pour la 9e année consécutive. D'ailleurs, c'est un exploit dans la presse quotidienne. Hein. Peu de quotidiens peuvent en dire autant. Mais cette année, l'année écoulée a été particulièrement remarquable parce qu'on a vu une accélération vers le numérique très forte.
Merci beaucoup Nicolas Barré, directeur des rédactions des Échos. Bon week-end et à lundi. Vous serez à 7h15 dans la matinale de Mathieu Belliard qui revient pour votre éclairage éco. Et les Échos week-end, ça se trouve en kiosque aujourd'hui, c'est vendu avec les Échos 5€, vous l'avez dit. Dans
merci
un
Philippe.
Instant, merci à vous, on va découvrir Antidote, le nouveau magazine de la santé de la chaîne France 2 au programme médecine et divertissement. Si, c'est possible. On en parle avec son producteur Benoît Thévenet et le mentaliste Fabien Olicard qui est évidemment dans l'émission. À tout de suite.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture Média. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Benoît Thévenet.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Vous êtes producteur notamment au sein de 17 juin Média qui produit notamment le journal de la santé. Votre actualité c'est Antidote, nouvelle émission présentée par Michel Simès et sur France 2. La première ce sera dimanche à 17h40 avec comme parrain, comme premier invité Thierry Lhermitte. Avec vous, avec nous Fabien Olicard. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Vous êtes mentaliste, plus de 4 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Vos vidéos ont été vues plus de 200 millions de fois, c'est le chiffre ou c'est encore davantage?
Ça monte tous les jours, hein. C'est le principe des compteurs. Hein.
Voilà, 200 millions de fois plus 24. Benoît Thévenet, quelle est la philosophie de l'émission Antidote telle que vous l'avez conçue ?
L'idée, c'est de faire un antidote à la morosité ambiante. Donc, on va proposer aux téléspectateurs de France 2 de passer une fin d'après-midi du dimanche soir dans la bonne humeur.
Je vous interromps tout de suite. On pourrait avoir la même ambition et diffuser des sketchs de comiques. Comment faire une émission qui divertit avec comme background, comme fond, la médecine?
Alors, c'est pas avec comme background la médecine, mais c'est avec comme background notre corps humain, notre corps, notre organisme. Comment est-ce qu'il fonctionne? Et donc, on va, au gré des expériences, de tests qu'on va proposer aux téléspectateurs, ils pourront le faire chez eux ou au travers de reportages, de comprendre comment ils fonctionnent, soit physiquement, soit mentalement, psychiquement, dans leurs comportements sociaux. Et donc, l'idée, c'est de, on va dire, réinventer un peu la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même pas...
C'est pas la meilleure période.
Mais, exactement. on a quand même beaucoup d'informations qui sont parfois un peu difficiles, un peu complexes à avaler. Là, on va essayer de s'amuser en apprenant et en famille, parce que tout le monde peut regarder ça.
Informations parfois contradictoires. On va entendre la bande-annonce. On va reconnaître évidemment la voix de Michel Simès.
Bienvenue sur le plateau d'Antidote. Toutes les semaines, nous allons tester nos connaissances autour de la santé, de notre corps et de notre psychologie.
Je suis persuadée qu'on peut faire plusieurs choses à la fois.
C'est quoi le pire ?
Manger que des pizzas ou boire que du soda?
Nous allons faire de ce rendez-vous un antidote à nos idées reçues et un antidote à la morosité ambiante. Faites-moi confiance.
Mise au point par Michel Simès et ses chroniqueurs, testé et approuvé par Thierry Lhermitte.
Bah, je crois qu'il n'y en a pas besoin d'être trois.
Antidote, un remède dans l'air du temps.
Alors avant qu'on détaille ce qu'on va voir dans l'émission de ce soir, il y a Fabien Olicard, on l'a
dimanche.
Dit. Dimanche soir, pardonnez-moi, il y a Fabien Olicard. Qui sont les autres chroniqueurs? Il y a quatre personnes autour de Michel Simès.
Ouais, une petite bande. Donc il y a Cécile Djunga, qui est animatrice de télévision sur France.tv, mais aussi humoriste, qui va être notre testeuse tout-terrain. Mm-hmm. Donc là, dans la première émission, elle nous explique à quoi sont dues les différentes larmes qu'on peut avoir. Mais,
et est-ce que ça fait du bien de pleurer?
Est-ce que ça fait du bien
et
de pleurer?
Du coup, elle va chialer. Pour tester.
On a Farah Kessri, qui est une vétérinaire et qui va comparer nos comportements à ceux des animaux.
Ah oui? Et pourquoi? Pourquoi une vétérinaire? En quoi... quand on soigne les tortues, on sait mieux soigner les humains.
Alors, non, parce que c'est pas comme ça qu'elle va nous raconter ses chroniques. C'est plutôt en comparant ce que les animaux savent faire et est-ce que nous, on sait faire aussi bien.
Premier exemple magnifique, la coopération.
La coopération. Mmh. On s'aperçoit que les fourmis, par exemple, ou les chimpanzés, savent très bien coopérer. Et donc, en plateau, on fera une petite expérience pour voir quel genre de coopérateurs nous sommes, ou en tout cas nos chroniqueurs sont.
J'ai vu l'expérience. Et puis il y a aussi Major Movement, c'est un pseudonyme. Hein.
Oui, c'est Grégoire Gibault. Grégoire, c'est un kinésithérapeute à Bretelles, qui est aussi très présent sur les réseaux sociaux. Et lui, il va s'occuper de notre corps, il va faire beaucoup de tests, nous expliquer tout, faire des crash tests, c'est-à-dire tout ce qu'on trouve dans le commerce, est-ce que c'est utile, est-ce que vraiment on
les
peut...
Les fameuses publicités des réseaux sociaux.
Genre la genouillère élastique.
La genouillère élastique que vous verrez dans la première émission. Ouais. Et puis il fera en plateau des petits tests sur notre organisme. Le squelette et les muscles, c'est lui.
Alors vous amusez à déjouer les idées reçues. La première, avant même d'être sexiste, est celle-ci. Est-ce qu'on peut faire deux choses en même temps? Vous faites un test avec trois garçons, trois filles. Car on dit que les femmes, contrairement aux hommes, savent faire plusieurs choses en même temps. Exemple, une opération simple, une addition. 13 plus 11, ça fait combien?
Merde, 24.
24. C'est du niveau de CE2, tout le monde y arrive, sauf quand il s'agit de faire en même temps sauter des crêpes.
Laurent, 37 plus 8.
45.
12 plus 11. Alors il faut les faire sauter les crêpes. Hein.
Yeah.
12 plus 11. Alors 12, 21. 12 plus 11. J'arrive pas. Rouge. 12 déjà, en temps normal, les calculs, mais alors là, avec les crêpes, mais alors, pas 12, c'est des belles crêpes. 7 fois 4.
Oh là là.
33 moins 15.
33, bien sûr. 33 moins 15. 33 moins 10. 23. 30.
C'est quoi?
Résultat, tous les participants ont mis beaucoup plus de temps pour faire sauter les additions alors qu'ils devaient en même temps faire sauter les crêpes. Mais surtout, vous mettez à bas un cliché.
Le résultat est sans appel. On ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Et visiblement, aucune différence entre les hommes et les femmes.
C'est un cliché de dire ça, c'est une idée reçue. Mais si on le teste en laboratoire, on n'en voit pas du tout. Aucune différence. C'est vraiment une limitation fondamentale du traitement du cerveau.
On vient d'entendre Claire Sergent, elle est neuroscientifique. Et on voit là l'ambition de l'émission, faire sourire avec le plus grand sérieux et faire réfléchir. Fabien Olicard, c'est ce qui vous a séduit dans cette émission, c'est pour ça que vous avez dit oui?
Ah oui, moi c'est le côté vulgarisation en fait. Et pour le coup, on peut s'amuser avec la science. Moi je le fais sur scène ou en vidéo depuis des années. Et quand on m'a proposé un projet dont l'ambition était par contre d'être toujours raccord à l'état de la science, à l'état de la connaissance et sur des faits très précis et des données très précises, mais de s'amuser avec, de faire de la vraie vulgarisation, je me suis dit, ok, là on touche l'ambition de intéresser les personnes. Et vous savez, depuis toujours, les mammifères apprennent en jouant. C'est l'émotion positive qui nous fait apprendre des choses. Donc ça remplissait 100% le deal et je me suis dit, bah oui, comptez sur moi, c'est très cool.
Et alors, que fait Fabien Olicard dans l'émission? Réponse dans quelques instants. Vous restez avec nous, Fabien Olicard et Benoît Thévenet. On parle d'antidote, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Benoît Thévenet, producteur de l'émission Antidote, nouvelle émission de Michel Simès qui va démarrer dimanche sur France 2 à 17h40. L'invité sera Thierry Lhermitte. Il y aura une petite bande autour de Michel Simès. Quatre personnes, dont le mentaliste Fabien Olicard dans ce studio. L'invité, c'est Thierry Lhermitte, je l'ai dit. Et Lhermitte, qui a une particularité que je partage, hélas, il est prosopagnosique. C'est-à-dire qu'on a un mal fou à reconnaître les visages. On a l'impression que tout le monde ressemble à tout le monde, comme dans une boîte de Playmobil. Et il y a des gens qui ont un problème annexe. Ils reconnaissent bien les visages, mais ils oublient leur nom. Or, Fabien Olicard, vous donnez des outils dans cette émission pour reconnaître les visages et les noms. Est-ce qu'on peut l'expliquer en quelques mots ?
Oui, bah, l'outil majeur, en tout cas, l'une des quatre astuces et la majeure, c'est de jouer avec la mémoire et l'imaginaire. Par exemple, si je devais retenir le nom et le prénom de Benoît Thévenet qui est en face de moi...
Il faut se souvenir que c'est Benoît, que c'est Thévenet, mais on peut l'oublier.
On peut l'oublier, mais si on s'amuse mentalement et dans l'imagination avec ça, on va le retenir sans avoir à l'apprendre en plus. C'est ça qui est génial, parce que le cerveau retient tout ce qu'il imagine. Alors moi, je vais imaginer Benoît, que je regarde comme ça. Je l'imagine déjà avec un maillot jaune, parce qu'il a gagné deux fois le Tour de France, c'est Thévenet, et comme ça... ça va m'aider de le retenir. Et puis, dans ma tête, il est en même temps en train de conduire une espèce de grosse charrette, comme dans Astérix et Obélix, avec deux bœufs devant, et cette charrette, elle transporte des noix. Il y a des bœufs, il y a des noix, ça c'est Benoît. Et quand même, pour m'aider un petit peu plus,
vous
et là je vais
raconter
aller plus
loin. Enfance,
exactement. Je l'imagine en plus avec le chapeau papal et c'est un peu sa papa mobile parce que Benoît XVI, exactement.
La coiffe du pape,
exactement, exactement, la tiare du pape. Donc j'ai tout pour me rappeler que c'est Benoît, que c'est Thévenet et tout ça, c'est tellement drôle que mon cerveau va vraiment s'en rappeler dans le long terme. Et quand je vais le revoir, j'ai ces éléments-là qui vont me revenir en tête malgré moi. Et je vais me dire, attends, mais c'est quoi ça ? Ben oui, Benoît, comme de bonnes... Ouais. Et pourquoi il avait le maillot jaune ? Ah ben, c'est... non, c'est pas Virenque, c'est un autre. Ouais, voilà, c'est Thévenet.
Voilà, et je dois dire, pour qui ne nous voit pas sur Europe 1.fr, pour aller sur Europe 1.fr et nous voir, c'est qu'il ne porte pas de maillot jaune. Donc, c'est par l'imagination
exactement.
Que vous faites le travail.
Ouais.
Et comme vous l'avez imaginé et non pas constaté, ça reste imprimé dans la mémoire.
Oui.
Vous avez bien suivi.
Oui, parce qu'en fait, le cerveau traite les souvenirs de sa vraie vie, de l'expérience, de la même manière que ce qu'il imagine. Les deux, pour lui, c'est de la mémoire autobiographique. Ça a existé. Si je l'imagine, ça a existé pour ma tête.
Si je comprends bien, vous venez d'augmenter ma notoriété là sur Europe 1.
Exactement.
Merci beaucoup.
Énormément. D'autres questions que vous posez dans l'émission. Par exemple, Benoît Thévenet, vaut-il mieux manger seulement des pizzas ou alors ne boire que du soda ? La réponse, on peut spoiler ou pas ?
Ah, je ne sais pas si on spoil. En revanche, la réponse, elle est scientifique.
Ouais.
Parce que tout ça est vérifié.
Et puis, dans la deuxième heure de Culture Média, on va parler musique, on va parler gastronomie. Et vous montrer, expérience phénoménale, que les deux éléments peuvent être liés. C'est l'expérience que tout le monde fait.
Ah oui, ouais, ouais. Et ça, moi, j'ai été bluffé. C'était génial.
Même
aussi
vous étiez bluffé.
Ouais, ouais, de me faire bluffer. C'est-à-dire que, je ne vais pas spoil, mais effectivement, on va voir l'impact de la musique sur notre sens du goût. Et moi, j'ai cru qu'on m'avait fait une farce et qu'on m'avait changé quelque chose à tel point ça avait fonctionné sur moi au répétition, dès les répétitions de départ et durant l'émission, c'est incroyable.
Je vais dire quand même ce qui passe sans donner, sans divulgâcher le résultat, c'est comme ça qu'on dit en bon français. On vous a fait goûter des frites, on vous demandait lesquelles étaient les plus sucrées, les plus salées, les moins salées,
oui.
En changeant la musique diffusée. Et en fait, la musique
ça change
influe
la perception.
Sur notre perception
et
sensorielle.
Et pareil sur le chocolat. Et ce qui est intéressant, c'est que les téléspectateurs peuvent le faire de chez
bien
eux
sûr.
En regardant l'émission, parce qu'on diffuse la musique évidemment,
ouais.
Et pourront faire l'expérience avec nous.
Je souris parce qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui aient chez eux à 17h40 des frites.
Non,
le chocolat.
Un carreau de chocolat. On peut le faire avec un carreau de chocolat et vous verrez que ça marche. C'est assez incroyable.
La neurogastronomie.
Autre question auxquelles vous allez prochainement répondre dans Antidote. Le chocolat rend-il plus intelligent ? L'addiction au selfie est-il une maladie mentale ? Quelles autres questions vous les avez en tête ?
Il y en a quelques-unes. Est-ce qu'on peut doper son cerveau grâce à l'électricité ?
Pardon de rigoler.
Ouais. Pourquoi l'herbe est toujours plus verte ailleurs ?
Ouais.
En psychologie. Comment se protéger du froid ? Ça, on est en train de travailler là-dessus, ça me plaît beaucoup. Comment se protéger du froid avec le moins de vêtements possible ? Autre question, est-ce que les animaux ont des accents ? Comme nous,
ouais.
Les humains ? Je spoil pas, mais j'ai la
voilà.
réponse.
Très,
par exemple,
très bonne question.
Une expérience que je trouve formidable, c'est la sortie de secours. Vous savez que, contrairement à tout ce qu'on pense, et on vous le démontrera en images, une sortie de secours... Une pièce se vide plus vite par une sortie de secours si elle est légèrement encombrée. S'il y a quelque chose devant, un obstacle, parce que l'obstacle crée de la fluidité.
C'est la mécanique des fluides, comme pour l'eau, comme pour les liquides.
Vous le verrez en image. Ça marche très très bien.
Ça me rappelle la formule. Hein. Fabien Olicard, sur votre chaîne YouTube, est-ce que vous continuez à décrypter la gestuelle de ceux qui nous gouvernent ? Et vous voyez évidemment où je veux en venir, Emmanuel Macron, Jean Castex, mais aussi Olivier Véran, le ministre de la Santé, puisqu'on est dans notre sujet là.
Oui, oui, ben je continue à le faire. J'ai même des contacts avec Olivier Véran, qui aime beaucoup mes vidéos, donc
ouais.
J'en suis ravi. Mais oui, je continue à le faire. Je ne veux pas me transformer, moi, en quelqu'un quelqu'un qui ne fait que de la politique, donc je le fais quand même avec parcimonie, 3-4 fois par an, quand je vois un sujet intéressant et quand je vois qu'il y a des choses intéressantes à dire, parce qu'il ne faut pas après que ça déborde sur mon avis personnel non plus.
Mais je dois dire que vous mouillez et vous ne trompez pas. Je me souviens qu'en mars dernier, c'était avant le confinement, vous avez décrypté le langage verbal du président Emmanuel Macron quand il disait que nous avions en France, je le cite, les meilleurs chercheurs et les meilleurs spécialistes. Et vous avez décortiqué la manière qu'il avait d'exprimer ceci. Ça devait nous rassurer, vous, ça vous inquiétait, vous aviez raison. La France, un an après, la France est à la traîne dans la recherche sur les vaccins et Sanofi a un peu lâché l'affaire en race campagne. Et donc, vous l'aviez pressenti, ou plutôt, vous l'aviez vu dans les propos de Macron, dont vous pensiez qu'il était déjà lui-même préalablement informé.
Oui, parce que d'ailleurs, il annonçait un confinement de 15 jours et pareil, je m'étais mouillé dans le décryptage en disant par rapport à ça, en réalité, je crois qu'il parle en termes de moi. Et ça, c'était confirmé, du coup.
Benoît Thévenet, vous êtes désormais directeur général de 17 Juin Média, qui produit notamment le magazine de la santé, qui existe depuis 2007 sur France 5, mais également avec Michel Simès, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, c'est une coprod avec Éléphant Prod.
Tout à fait.
Ou encore le talk show de Simès, ça ne sortira pas d'ici. Comment vous avez vécu cette année médiatico-médicale? Vous étiez sur tous les fronts.
On a été très présent et on a fait notre métier au magazine de la santé, notre métier de journaliste, puisqu'il a fallu accompagner et décrypter toutes ces informations compliquées à comprendre au démarrage.
Donc, vous avez dû aussi, pardon de vous interrompre, éteindre quelques incendies. Je me souviens, Michel Simès qui avait été accusé d'avoir minimisé le Covid au début de l'épidémie, Marina Carrère-Dancausse qui avait déclaré avoir menti pour la bonne cause, notamment sur l'inutilité supposée ou non des masques. Quel enseignement vous avez tiré de ces polémiques?
On en tient l'enseignement qu'il faut toujours réfléchir avant de parler, mais surtout, non, ce que je veux dire, c'est que il faut voir le nombre d'heures d'antenne que font Marina Carrère-Dancausse et Michel Simès. Et qu'au milieu, il y a à un moment donné une phrase malheureuse, et d'ailleurs qu'à moitié malheureuse, parce que Michel, quand on se souvient à quelle période il a dit ça...
Exactement. Il s'en était expliqué ici, on a retrouvé les bandes et il avait raison.
D'abord, il n'avait jamais dit que c'était une grippette, ça, c'est les réseaux sociaux qui l'ont dit, c'est pas
incroyable,
lui.
Ça.
Et c'est un truc de dingue. Et ensuite, il
mais
était
sur
pas
l'inutilité des masques, moi je me souviens d'avoir vu dans plein d'émissions, et pas seulement chez vous, dans les JT, nous expliquer que les masques ne servaient à rien, et même Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui disait que ça ne servait à rien.
Oui, parce que je pense que c'est là où il faut faire preuve de modestie vis-à-vis de la science. Quand on ne sait pas, on attend. Et que parfois, on essaye d'être rassurant. Tout le monde pensait que c'était une grippe. Ce n'est pas une grippe. Voilà.
Fabien voulait dire quelque chose, Fabien Olicard, sur ce sujet.
Non, mais c'est le propre de l'être humain. C'est très facile de faire de l'analyse a posteriori, une fois qu'on a toutes les données, en fait. Et même dans sa vie personnelle, hein, on essaye de traduire nos échecs et nos réussites a posteriori, mais en temps réel, on fonctionne aussi avec les données disponibles à ce moment-là, quoi.
Exactement, c'est ce qu'on appelle donner la météo de la veille. C'est ce qu'il y a de plus facile. On va entendre le générique parce qu'il est un petit peu différent des émissions. Vous avez raison, c'est un générique feel good. Ni il me plaît pas, mais je me dis, tiens, c'est un générique avec un son différent du genre d'émission qui traiterait ce genre de sujet.
Exactement. L'idée, c'est de se dire, comment est-ce qu'on va passer cette petite déprime du dimanche soir? Et ben voilà, le générique, il annonce qu'on est là pour passer 50 minutes sympa, quoi.
Ça s'appelle Antidote, c'est présenté par Michel Simès. Ce sera dimanche à 17h40 sur France 2. Pas le dimanche d'après, parce qu'il y a du rugby, et le dimanche encore suivant.
C'est notre petite difficulté, c'est qu'on va faire une fois sur deux pour commencer.
Merci beaucoup, Benoît Thévenet. Merci beaucoup, Fabien Olicard. Et je cite votre dernier livre, Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. Merci beaucoup d'avoir été là en direct.
Merci à vous.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.